Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers pères et frères, cher père Marie-Laurent, chers séminaristes, chères sœurs, chers fidèles, parents et amis du Père Marie-Laurent, nous sommes réunis aujourd'hui pour nous unir à l'action de grâce d'un de nos pères pour le 10e anniversaire de son ordination sacerdotale. C'était un 29 juin. Chaque année à Écône, Monseigneur Lefebvre profitait de ce que les ordinations avaient lieu à cette date ou à une date voisine pour manifester sa fidélité à l'Église romaine, à la Rome éternelle, gardienne de la foi catholique, maîtresse de sagesse et de vérité, comme il l'a écrit. Et il se démarquait de la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante issue du Concile Vatican II, qui entraîne les catholiques hors des sentiers de la foi. C'est qu'en ce jour du 29 juin, l'Église célèbre le martyre des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, qui est l'acte de naissance de la Rome catholique. C'était en l'année 67 après Jésus-Christ. À Rome, Néron tenait les rênes de l'Empire. 3 ans auparavant, pour plaire au peuple, il avait accusé faussement les chrétiens d'avoir incendié un quartier de la capitale. Il les fit cruellement périr par divers genres de morts dans ses arènes au Vatican. Les uns revêtus de peaux de bêtes furent exposés aux morsures des chiens, les autres crucifiés, d'autres attachés à des poteaux et enduits de poids brûlèrent, transformés en torches ardentes pour illuminer la nuit. Le martyrologe les a honorés la semaine dernière. Ils furent les prémices des martyrs de Rome, fruits glorieux de la prédication de saint Pierre et de saint Paul. Saint-Pierre était absent à ce moment-là. Lorsqu'il revint dès l'an 66, il n'était plus du tout en sécurité dans la ville et les fidèles le supplièrent de quitter momentanément Rome. Bien qu'il eût préféré souffrir, dit saint Ambroise, il finit par céder. Il était déjà bien engagé sur la voie appienne lorsque tout à coup il se trouva en face de notre Seigneur qui se dirigeait vers Rome. « Quo vadis, Domine ? Où allez-vous, Seigneur ?»« À Rome, répondit Jésus, pour y être de nouveau crucifié. » Tout joyeux de pouvoir offrir le sacrifice de sa vie pour son maître, Saint-Pierre reprit le chemin de la capitale. Il fut arrêté peu après avec saint Paul et enfermé avec lui dans la prison mamertine à côté du forum. Ils y restèrent 1 an, convertissant les autres prisonniers et des soldats. Une source jaillit miraculeusement du sol de la prison, toujours visible, pour leur permettre de les baptiser. Après 1 année, Néron décida de mettre à Rome le même jour saint Pierre et saint Paul. C'était le 29 juin 67. Saint Paul, en tant que citoyen romain, fut condamné à avoir la tête tranchée. Lorsqu'il fut décapité, sa tête fit 3 bonds et 3 fontaines jaillirent aux endroits où elle toucha la terre. Elles sont toujours là. Saint-Pierre, quant à lui, fut conduit vers le cirque de Néron, sur le Vatican, là où ses premiers disciples avaient été brûlés vifs. Il supplia ses bourreaux de le crucifier la tête en bas, ne se sentant pas digne d'être crucifié comme son maître. Les chrétiens l'ensevelirent tout près du cirque, à côté des restes calcinés de ses fils spirituels. Et il y est encore. C'est sur son tombeau que fut édifiée la basilique Saint-Pierre. Il se trouve à la verticale de l'autel papal. On peut apercevoir ses ossements en visitant les fouilles de Saint-Pierre. « Ô Roma Félix !» s'exclame la liturgie. « Ô Rome bienheureuse, te voilà consacrée par le sang glorieux de tes deux princes. Couverte de leur pourpre, tu sièges maintenant au milieu de l'univers, toi maintenant la plus belle de toutes les villes. Tu étais maîtresse de l'erreur, tu es devenue disciple de la vérité, s'exclame Saint Léon le Grand dans les matines de ce jour. Et ceci a duré jusqu'à Pie XII inclus. Il s'agit maintenant de garder cet héritage, en attendant qu'à l'heure de Dieu, les ténèbres se dissipent de la Rome actuelle et que l'Église retrouve toute sa splendeur. Ce n'est pas à la vie de Pierre que les ennemis de l'Église s'en sont pris aujourd'hui comme au premier temps. Voulant un pape selon leurs besoins, ils s'en sont pris à son esprit, et c'est bien pire. Mais comme les ennemis de notre Seigneur n'ont pas réussi à faire disparaître l'Église naissante, ils n'auront pas raison de l'Église des derniers temps, car les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. Cher Père Marie-Laurent, c'est en cette période que la Providence vous a placé, nous a placé, et vous a ordonné prêtre. Et vous avez été ordonné prêtre pour continuer le sacrifice de notre Seigneur, pour que notre Seigneur, en la personne de qui vous agissez à l'autel, renouvelle de manière non sanglante son unique sacrifice du calvaire pour emporter les fruits à notre époque. Comprenons bien que la raison d'être de l'Église, c'est de distribuer au monde les fruits de la rédemption, spécialement par la messe. Par sa mort sur la croix, notre Seigneur a réparé tous les péchés de l'humanité, brisé le pouvoir du démon, vaincu le monde. La messe renouvelant la croix, c'est cela qu'elle produit. Mais si le sacrifice de la messe s'éteignait, dit Don Guéranger, nous ne tarderions pas à retomber dans l'état dépravé où se trouvaient les peuples souillés par le paganisme. Et telle sera l'œuvre de l'Antéchrist. Il prendra tous les moyens pour empêcher la célébration de la Sainte Messe afin que ce grand contrepoids soit abattu. Et c'est ce qui arrivera à la fin des temps, lorsque le diable et ses suppôts, déchaînés par toute la terre, y mettront le trouble et la désolation, ainsi que le prophète Daniel nous en avertit. À force d'empêcher les ordinations et de faire mourir les prêtres, le diable empêchera enfin la célébration du grand sacrifice, alors viendront les jours de malheur. Nous ne sommes pas arrivés à ce stade, mais les temps actuels en sont comme une préfiguration. La réforme liturgique ayant transformé la messe dans un sens protestant, une multitude de prêtres et même d'évêques ont perdu la foi dans le sacrifice. Le nombre de messes invalides n'a cessé d'augmenter. Les vocations de prêtres se sont taries. Et le grand sacrifice qui seul peut sauver le monde est en train de disparaître. Nous en voyons les conséquences tous les jours. Alors gloire à Monseigneur Lefebvre qui a sauvé la messe et le sacerdoce catholique et sacré des évêques pour les propager. C'est ce sacerdoce catholique que vous avez reçu il y a 10 ans, Père Marie-Laurent. Demandez la grâce aujourd'hui de célébrer avec toujours plus de foi et de piété. Ce sont les deux termes qu'emploie l'Église à propos des fidèles dans une prière du canon. Quorum tibi fides conita est et nota devotio. Souvenez-vous, Seigneur, de vos serviteurs et de vos servantes et de tous ceux qui nous entourent, vous connaissez leur foi et leur piété. Alors si l'Église constate cela de la part des fidèles, cela vaut à plus forte raison, elle doit le constater pour le prêtre. Ne célébrons jamais comme des fonctionnaires du culte. Monseigneur Lefebvre constatait qu'avant le Concile, beaucoup de prêtres l'étaient devenus, célébrant machinalement, sans piété, sans aucune préparation ni action de grâce. Eh bien, nous n'en avons pas le droit. Nous n'en avons pas le droit parce qu'à l'autel, le prêtre est le Christ. À l'autel, c'est la personne du Christ qui agit. Le prêtre n'est que son instrument, instrument conscient qui doit se donner à cette tâche avec tout son être, mais instrument quand même. Et là, fils de Saint Dominique, en ce 8e centenaire de son entrée au ciel, édifiez-vous en contemplant comment votre Père célébrait sa messe. Après la récitation des matines, disent les chroniqueurs, Dominique se préparait longuement au Saint-Sacrifice. À une époque où la coutume n'était plus pour les prêtres de célébrer tous les jours, Dominique avait adopté la pratique de la célébration quotidienne. Il y était fidèle, même en voyage, et il encourageait cette coutume, ayant même obtenu du pape pour son ordre, le 6 mai 1221, la permission de célébrer sur un autel portatif. On peut dire que Saint Dominique contribua d'une manière très efficace à réintroduire dans l'Église l'usage de la messe quotidienne. Il donnait aussi en célébrant l'exemple de la plus fervente et de la plus tendre dévotion. Il versait d'abondantes larmes, surtout depuis l'élévation jusqu'après la communion. Les larmes glissaient le long des ornements sacrés sans que l'une attende l'autre et elles allaient jusqu'à terre. Ce don des larmes était ce que l'on appelle une grâce gratuitement donnée à notre saint, et qu'il serait présomptueux de demander. Mais que l'importance que Dominique accordait à la messe quotidienne et sa ferveur à la célébrer nous servent de modèle. Bien sûr, il y a plusieurs manières de réaliser la vocation sacerdotale. Il y a la vie sacerdotale du prêtre de paroisse. Il y a celle du moine bénédictin, qui n'aura peut-être aucun apostolat direct avec des fidèles pendant toute sa vie. Il y a aussi la vie sacerdotale du dominicain. Au début de l'année 1217, Saint Dominique, étant en oraison dans la basilique Saint-Pierre, aperçut tout à coup les apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul venant du ciel vers lui. Le prince des apôtres lui présenta un bâton et saint Paul le livre des Écritures. Et tous deux lui dirent « Va et prêche, car c'est à ce ministère que tu es appelé. » En même temps, saint Dominique eut la vision prophétique de ses fils spirituels s'en allant à travers le monde. Dans la symbolique des 12e et 13e siècles, le bâton remis à un fondateur d'ordre signifiait l'autorité religieuse qui lui était conférée. Quant au livre des Écritures, les historiens y ont vu l'emblème de la prédication doctrinale et apologétique, en d'autres mots, l'enseignement de la doctrine et la défense de la foi. Dans la préface de saint Dominique, l'Église adresse ses paroles à notre Seigneur. « Vous qui, pour l'honneur et la défense de la Sainte Église, avez voulu renouveler la forme de la vie apostolique par le bienheureux patriarche Dominique. » La vie dominicaine est la continuation de la vie que menaient les apôtres et qu'ont mené longtemps les prêtres à leur suite. Il faut bien comprendre que le sacerdoce, tel qu'il s'est organisé dès les temps apostoliques, n'était pas un sacerdoce de prêtres isolés, mais de prêtres vivant en communauté autour de leur évêque. La grande préoccupation des évêques d'alors pour convertir les pays païens était d'établir auprès d'eux un collège nombreux et fervent de prêtres, n'ayant aucun bien en propre parce qu'ils mettaient tout en commun, chantant l'office ensemble aux différentes heures du jour et assurant le ministère de la prédication. Ils ne faisaient pas nécessairement de vœux, mais ils pratiquaient strictement les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, à l'exemple des apôtres qui avaient vécu ainsi avec notre Seigneur. Le spectacle de ces communautés ferventes, de leur vie liturgique, de leur prière incessante, était déjà par lui-même un apostolat, tandis que leur vie contemplative de prière et d'étude était la meilleure préparation à leur prédication. Il en fut ainsi du sacerdoce pendant les 9 premiers siècles de l'histoire de l'Église, et ce fut l'apogée de l'Église, peut-être même plus que le Moyen Âge. Eh bien, c'est cette forme de vie que la Providence a inspirée à saint Dominique de rétablir à l'aube du XIIIe siècle, en la consolidant cette fois par des vœux, en y adjoignant des frères pour décharger les prêtres de la plus grande partie du matériel et soutenir en même temps l'œuvre commune par leurs prières et le sacrifice de leur vie cachée. Les prêtres pourraient alors se consacrer de toute leur force à l'œuvre du salut des âmes. Unis au sacrifice de notre Seigneur par la pratique des vœux de religion, renouvelant ce sacrifice chaque jour en célébrant la Sainte Messe, méditant et contemplant l'œuvre de la rédemption dans les textes qu'ils chanteraient à l'office et dans l'étude personnelle, ils seraient tout préparés pour la faire connaître au monde et pour combattre les erreurs qui en détournaient les âmes. Mais comme la tâche est difficile, la Très Sainte Vierge a voulu donner à notre ordre le rosaire, à la fois pour qu'en y contemplant les 15 principaux mystères de notre rédemption, nos prêtres y trouvent un aliment pour leur prédication, et aussi pour que la prière de supplication des Ave Maria leur ouvre la porte des âmes. Rendez grâce, Père Marie-Laurent, pour cette vocation à laquelle vous avez été appelé. Admirez par quelles étapes la Providence vous a conduit jusqu'au jour où vous avez frappé à la porte du couvent, et demandez la fidélité jusqu'à la mort, fidélité à votre sacerdoce, fidélité au combat de la foi pour l'Église et pour les âmes. Pour rester fidèle, efforcez-vous sans cesse de correspondre à ce que l'évêque vous a dit dans la cérémonie d'ordination. Conservez dans vos mœurs l'intégrité d'une vie sainte et pure. Prenez conscience de ce que vous faites et imitez ce que vous opérez. Agnoscite quod agitis, imitamini quod tractatis. Par la célébration du mystère de la mort de notre Seigneur, efforcez-vous de faire mourir en vous tous les vices et toutes les concupiscences. Que vos paroles soient un remède spirituel pour le peuple fidèle. Que la bonne odeur de votre vie fasse les délices de l'Église de Jésus-Christ. Que vos discours et vos exemples soient l'édification de la maison de Dieu. Quant à vos chers parents qui sont ici, si c'est toujours un sacrifice que notre Seigneur demande aux familles lorsqu'il appelle un enfant à son service, n'oubliez pas que la croix est toujours synonyme de grâce. L'Église, qui est une mère délicate, demande aux prêtres de mentionner leur famille chaque jour au canon de la messe. Chaque jour, depuis 10 ans maintenant, un prêtre qui est votre fils prie pour vous à la messe, et il va le faire encore dans quelques instants. Y a-t-il plus grande grâce à souhaiter pour des parents ? Alors, au cours de cette messe, prions pour le Père qui célèbre son 10e anniversaire d'ordination. Prions pour les prêtres et pour les vocations de prêtres. Et prions pour l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.